France Inter.
Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ce soir-là, ils ont perdu l'innocence de l'enfance. À la une, ces très jeunes victimes de l'attentat de Nice qui s'apprêtent à témoigner lors du nouveau procès à Paris. Deux hommes condamnés en première instance sont rejugés en appel et certains enfants blessés ou traumatisés à l'époque sortent du silence pour la première fois. Le vaccin prescrit et administré en pharmacie, c'est possible depuis 9 mois, mais vous l'entendrez, ce n'est pas encore entrer dans les mœurs en France, loin de là. Les Français qui restent en revanche très majoritairement favorables à la vaccination selon les tout derniers chiffres de Santé publique France. Dans ce journal aussi, pas de CRS sauveteurs sur les plages cet été à cause des JO et les produits de beauté pour les hommes, un marché loin d'être cosmétique.
Au micro de Sonia De Villers aujourd'hui, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France.
France Inter.
8 ans après, la cour d'assises spéciale de Paris va replonger dans le cauchemar du 14 juillet 2016.
Promenade des Anglais à Nice, un camion fonce sur la foule, 86 morts, des centaines de blessés. Le terroriste est tué juste après par la police. Le procès en appel s'ouvre donc aujourd'hui et pour 2 mois, on rejuge 2 des 8 personnes condamnées en première instance. Des connaissances de l'assaillant qui avait écopé de 18 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes lors du premier procès. C'est donc une nouvelle épreuve qui attend les très nombreuses parties civiles, 2500. Parmi elles, des enfants à l'époque qui s'apprêtent aujourd'hui à témoigner. Mathilde Vinceneux, certains l'avaient déjà fait, mais pour d'autres, ce sera la première fois.
8 ans après, Ornella a enfin cessé de faire des cauchemars. Elle avait 12 ans le soir de l'attentat.
J'ai vraiment quitté le monde des enfants. Ce soir-là, je l'ai laissé derrière moi et j'ai vu des horreurs, j'ai vu des corps. J'ai encore certaines crises d'angoisse quand il y a trop de monde, quand il y a de la pluie aussi. Il y en avait ce soir-là. Ce témoignage, je l'ai déjà fait une fois, ça m'a fait du bien. J'ai toujours dit, c'est important de parler.
On ne peut pas effacer entièrement.
Djibril Ange, lui aussi, a déjà témoigné au premier procès. Longtemps, il a cherché à gommer les souvenirs de l'enfant de 10 ans qu'il était, en slip de bain à enjamber les corps.
Il fallait que la justice me convoque pour comprendre que j'étais victime, que ce que j'avais vécu était grave.
Quand on est petit, on ne réalise pas, ce n'est qu'après, explique Inès. Elle va prendre la parole pour la première fois au procès en appel.
D'en parler, je pense que ça me ferait du bien. Comme entendre ce qu'on a vécu, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et il y a aussi les camions blancs qui fait que ça nous fait des angoisses.
Ce soir-là, Inès avait 8 ans. Son petit frère Mathias, 7 ans, lui aussi veut cette fois témoigner, raconter les séquelles.
Pendant un moment, je sortais plus chez moi. Au collège, juste, j'y arrive pas trop, vu que ça m'a laissé des difficultés.
Inès et Mathias se souviennent qu'ils dansaient, qu'ils chantaient sur la prom. Le reste est flou, leur mère a été blessée aux jambes. Ils veulent tourner la page.
Et le verdict est attendu le 14 juin pour ce procès en appel de l'attentat de Nice. On vous en parlait dès jeudi sur Inter. S'ouvre aussi ce matin le procès d'une secte, la Grande Mutation, dont 6 dirigeants comparaissent pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. Pas le gourou qui est mort. Cet ancien scientifique prétendait avoir visité une 20aine de planètes avant de revenir sur Terre pour sauver les humains. Ses cheveux longs lui servaient, disait-il, d'antenne cosmique. Il incitait ses adeptes à se couper du reste du monde, à rejeter la médecine conventionnelle, même en cas de cancer. Une 20aine de victimes ont été identifiées. Quand un maire fait un salut nazi en plein conseil municipal, ça s'est passé samedi à Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris, lors d'une altercation entre l'édile d'hiver droite, Philippe Gaudin, et un opposant écologiste qui l'accusait d'avoir fait alliance avec l'extrême droite. Depuis, le maire a présenté ses excuses. La préfète du Val-de-Marne saisit tout de même la justice.
Il est 7h34, plus de 8 Français sur 10 favorables à la vaccination.
84% exactement en 2023. C'est nettement plus qu'avant le Covid, selon le dernier baromètre de Santé publique France publié ce matin. Voilà qui bat en brèche certaines idées reçues, même si l'adhésion est moins forte chez les moins diplômés et les plus pauvres. Ça dépend aussi du vaccin. Celui contre le Covid suscite de loin les réticences les plus importantes. Ces chiffres tombent alors que l'accès à la vaccination est théoriquement plus facile depuis l'été dernier et la possibilité pour les infirmiers et les pharmaciens de vous prescrire et administrer une dose. Les patients s'en sont-ils emparés, Sonia Gobry ?
Ça commence à marcher, assure Karine Wolfthal, la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Selon elle, les officines sont toujours dans une phase d'information auprès des clients.
Ils n'ont pas encore même l'information qu'on peut même administrer les vaccins du calendrier vaccinal.
Effectivement, ces personnes croisées au hasard dans la rue n'étaient pas au courant que les pharmaciens pouvaient non seulement injecter les vaccins, mais aussi les prescrire.
Non, je ne savais pas.
Ah d'accord. Et lesquels ? Contre la grippe ?
Écoutez, je suis heureux de l'apprendre.
Et ils n'y voient pas d'inconvénient.
Parce que je connais bien mon pharmacien, j'ai confiance.
Si on est en mauvaise santé, je serais peut-être un peu prudent, mais si on est plutôt en bonne santé pour des vaccins, ça va.
Edwin, pharmacien à Paris, a prescrit une dizaine de vaccins. C'est encadré, seulement ceux mentionnés au calendrier vaccinal, comme le tétanos, la grippe ou encore l'hépatite, uniquement aux personnes âgées de plus de 11 ans, et il a dû suivre une formation d'une dizaine d'heures. Il s'est porté volontaire parce qu'il y voit un moyen d'améliorer l'offre de soins, mais il estime que la rémunération n'est pas à la hauteur du niveau de responsabilité.
Le fait d'injecter et de prescrire le vaccin, on touche 9 euros. Par rapport au risque qui est pris par le pharmacien, s'il y a un problème, une mauvaise délivrance pénalement, c'est le pharmacien qui est responsable. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas s'engager là-dessus.
À ce jour, il n'y a pas de bilan chiffré du nombre de pharmaciens qui se sont formés pour administrer ou prescrire les vaccins.
Quant au niveau de couverture vaccinale, Santé publique France estime qu'il est plutôt élevé pour les vaccins obligatoires du nourrisson, à l'exception de la rougeole, sous les 95%. C'est le seuil nécessaire pour l'éradication de la maladie. C'est la toute première étape du long marathon législatif autour de la fin de vie. Une commission spéciale de 71 députés lance ses travaux aujourd'hui. Pendant un mois, avant l'arrivée du texte dans l'hémicycle, elle va décortiquer le projet de loi qui prévoit une aide à mourir. Ça commence par une série d'auditions. La ministre de la Santé ce soir, puis des soignants, des représentants religieux, associatifs ou encore des psychologues et philosophes. Dans la série, les JO chamboulent l'organisation de la saison estivale. L'inquiétude sur le littoral pour la surveillance des plages. Les 300 CRS mobilisés d'habitude en tant que nageurs-sauveteurs seront quasiment tous réquisitionnés pour les Jeux. Comment pallier leur absence ? De la Côte d'Opale à la Méditerranée, les élus cherchent des solutions, Sarah Mansoura.
Pour éviter de fermer des plages, restreindre les horaires de surveillance ou de transformer des postes de secours en simples postes d'appel, les mairies doivent recruter davantage de sauveteurs civils. Arnaud Iribarne, responsable des plages à Saint-Jean-de-Luz.
Le surcoût est entre 30 000 et 40 000 euros, sur un budget de 300 000 euros. La volumétrie horaire d'un CRS est de 48 heures semaine et d'un agent rémunéré par la commune de 35 heures. Donc pour compenser 10 CRS, il nous faut recruter 14 jeunes.
Et des jeunes souvent moins expérimentés et moins diplômés que les policiers, relève Yannick Vérez, chargé du service unifié des plages en Côte d'Opale.
L'avantage avec ces nageurs-sauveteurs CRS, c'est qu'ils sont déjà formés, ils ont tous les diplômes nécessaires d'encadrement, voire des diplômes supplémentaires qui permettent aussi d'encadrer les jeunes, de les aider, de les entraîner, faire des simulations en mer, etc.
Outre le sauvetage, les CRS sont en première ligne pour gérer les incivilités ou prodiguer certains soins. Mais ce qui inquiète le plus, c'est la disparition du pouvoir police sur les plages. Beaucoup, comme le maire de la Grande Motte, Stéphane Rossignol, vont compenser avec des effectifs municipaux.
Il y a des faits divers, des vols, de la consommation de produits stupéfiants. Les nageurs n'ont bien entendu pas de compétences à ce niveau. La police municipale sera un peu plus présente qu'elle ne l'était les années précédentes.
Des renforts qui rassurent alors que certaines communes voient leur population décuplée en été.
Sarah Mansoura, construit en 1915, il avait participé aux deux guerres mondiales. L'armée ukrainienne affirme avoir frappé hier en mer Noire l'un des plus vieux navires militaires russes. Il serait hors service selon Kiev. Kiev où l'on a accueilli avec grand soulagement ce week-end l'approbation de la nouvelle aide américaine par la Chambre des représentants à Washington. En Pologne voisine, certains sont désormais convaincus que le pays est le prochain sur la liste de Moscou. Près de 40 000 volontaires ont déjà rejoint l'armée pour s'entraîner aux techniques de combat en cas d'invasion russe. C'est le reportage de Martin Chabal.
Sur le champ de tir, les volontaires des forces de défense territoriale de l'armée polonaise s'entraînent avec des armes de guerre. Alexandre a 29 ans, ça fait 4 ans qu'il vient au moins un week-end par mois pour s'entraîner ici. Il veut être prêt.
Avec ce type de formation, je peux améliorer mes compétences et aujourd'hui, je suis sûr que je suis prêt à tirer avec des armes.
Stanisław, archéologue dans le civil, s'entraîne aux tactiques de combat dans une forêt. Aujourd'hui, il apprend à réagir si l'un ou l'une de ses camarades est blessé par une mine. Une situation qu'il espère éviter.
Aucun d'entre nous ici ne souhaite qu'une telle chose se produise, mais nous y sommes préparés. Parce que, malheureusement, nous sommes frontaliers avec la Russie et nous risquons d'être les prochains sur la liste.
Christophe, de son côté, veut garder en tête la dimension humaine de ces entraînements malgré la menace.
Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais personne, mais j'ai noué de très belles relations et nous partageons un objectif commun. Nous savons tous où nous sommes, pourquoi nous le faisons, et c'est pour ça que nous voulons être ici.
La Pologne, qui craint une attaque russe, espère bien capitaliser sur cet enthousiasme pour doubler ses effectifs militaires et devenir la plus grande armée d'Europe dans les années à venir.
Martin Chabal à Varsovie pour Inter. En Équateur, un directeur de prison assassiné hier en pleine journée de référendum contre les narcotrafiquants, puisque le pays est confronté depuis le début de l'année à une flambée de violence. C'est donc pour cela que le président a soumis hier une série de propositions à consultation. La plupart ont été approuvées par les Équatoriens, dont la possibilité d'extrader les trafiquants de drogue vers les États-Unis, mesure redoutée par les premiers concernés.
Il est 7h40, les hommes, nouvelle cible du marché de la cosmétique.
Oui, dans la salle de bain, chaque matin, monsieur prend de plus en plus soin de lui. Désormais, un homme sur deux s'applique au moins une crème hydratante, selon le cabinet de conseil Nelly Rodi. Et les marques ont flairé le très bon filon du soin masculin, 8% de croissance annuelle anticipé par les spécialistes d'ici à 2030, en particulier chez les jeunes, cette génération Z qui lève des tabous et déconstruit les stéréotypes de genre. William Delesseux l'a constaté en magasin.
Il semble un peu perdu entre les produits de la boutique Horace, la marque leader du secteur. Hugo, 24 ans, vient ici pour la première fois.
Je me rends compte que j'ai besoin d'entretenir mon visage et que par rapport à mon travail, j'ai besoin d'avoir une allure assez correcte. Donc c'est important.
Client depuis 2 semaines, Romain le dit, il n'y a pas à avoir de complexe.
Je pars du principe que autant les femmes que les hommes peuvent prendre soin de leur peau. Donc non, pas du tout.
Des jeunes plus à l'aise avec la cosmétique, observe aussi Marc Brianterlet, le cofondateur de l'enseigne.
Le fait qu'on ait des hommes qui mettent en avant des routines, visage ou cheveux sur des TikTok, sur des Instagram, ça a quand même fait beaucoup bouger les choses. Ou YouTube, ça a aidé en fait à faire bouger la mentalité en disant bah en fait c'est normal.
Le secteur se porte bien et c'est aussi grâce à ces jeunes clients, confirme Chloé Arjona de l'agence de conseil Nelly Rodi.
C'est un marché qui est en plein essor, qui a une croissance forte et parfois plus forte que sur les secteurs féminin. Même si c'est vrai que ça part plutôt de ces générations, ça va assez vite se répandre aux autres. Et puis c'est un phénomène de société. Le self-care, prendre soin de soi, c'est quelque chose qui s'inscrit durablement dans le temps.
Dernier tabou, le maquillage, comme ces fonds de teint qui s'appellent pour les hommes fluide bonne mine. Ils sont prisés par 1 jeune sur 4 en moyenne.
Le fluide bonne mine, on en aurait bien besoin en matinale par bidon de 5 kilos.
Merci Alexis Morel. À suivre, Yael Gauss, Dominique Sonia de Villers.